VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
18h temps universel, dans 10 minutes l'Amérique et vous avec John Lyndon, mais tout d'abord le journal. Grève générale aujourd'hui en Guinée, Conakry, la capitale et plusieurs autres agglomérations avec des allures de ville morte avec une absence quasi totale d'activité. Le point avec John Lyndon.
Rue vide, bureaux, commerce et banques fermées. Pour lui, Mbemba Souma, secrétaire général de l'USTG, l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, il n'y a rien à dire. Cette grève est suivie à 100%. L'USTG est l'une des coalitions ayant appelé à l'arrêt de travail avec la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, la plus importante du pays. Ces centrales syndicales exigent notamment la baisse des prix des carburants et la satisfaction des revendications salariales. Un déploiement policier important était visible à travers la capitale. Les écoles et universités sont fermées, tout comme les transports en commun, les banques, boutiques et commerces, y compris le marché de Médina, le poumon économique de la capitale. La même paralysie était aussi visible à l'intérieur du pays. En janvier 2015, les syndicats avaient déclenché une grève générale illimitée pour réclamer des augmentations des salaires dans les secteurs publics et privés. Ils avaient mis fin à leur mouvement dès son deuxième jour, après avoir trouvé un accord avec l'État.
Au Niger, les électeurs se rendent aux urnes dimanche pour élire leur prochain président, mais il n'y a aucune femme parmi les 15 aspirants à la magistrature suprême, dont le président Mamadou Issoufou qui brigue un nouveau mandat. Pourquoi cette absence totale alors que les femmes représentent la moitié de la population? Un début de réponse avec notre correspondant à Niamey, Abdoul Razak Idrissa.
Alors que beaucoup s'attendaient à ce qu'elle se lance cette année aussi dans la course au fauteuil présidentiel, comme elle l'a fait en 2011, une première dans l'histoire démocratique du Niger, Madame Bayar Mariama Gamache a décidé de ne pas se présenter pour bien deux raisons.
Je ne fais pas de la figuration pour crédibiliser une élection, parce que c'est une mascarade d'élection que la Renaissance est en train d'organiser. C'est un régime démocratique qui organise des élections démocratiques. Il ne s'agit pas d'élections démocratiques ici. Je n'ai pas la garantie que ça va se faire avec un régime qui refuse le consensus, avec un régime qui viole systématiquement les lois, avec un régime qui veut s'imposer par la force. Donc je n'ai pas confiance en cela. Donc quand les règles de jeu sont pipées, même si vous allez aux élections, vous ne pouvez rien avoir.
Ni elle donc, ni une autre n'est candidate à la présidentielle de dimanche prochain. À la coordination des ONG et associations féminines du Niger, on a quelques explications. Madame Kaka Fatouma est la présidente.
Le premier facteur, d'abord, il y a la question d'autonomie financière. Parce qu'il faut avoir les moyens, surtout que le montant est un peu élevé. Il y a le deuxième facteur aussi, le problème socioculturel. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, au Niger, si une femme se présente candidate au présidentiel, on trouve ça ridicule. Mais moi, j'ai dit que ce n'est pas ridicule, c'est leur façon de voir les choses. Pourquoi pas? On le fait ailleurs, pourquoi pas au Niger? Le troisième aspect est lié aussi au problème de terrain. Vous savez très bien qu'au Niger, nous sommes confrontés à beaucoup de questions d'insécurité. Et qu'aujourd'hui, peut-être que la femme ne peut pas vraiment affronter le terrain.
Abdoul Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique centrale maintenant, en RCA, un jour après le double scrutin présidentiel et législatif du 14 février, les yeux sont désormais tournés vers l'Autorité nationale des élections, l'institution chargée de superviser le processus électoral. Les opérations de dépouillement sont pratiquement terminées et les procès-verbaux continuent d'arriver au centre de traitement des données. Les précisions de notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
Jusqu'à ce lundi, tous les procès-verbaux et autres matériels électoraux de Bangui et une partie de l'intérieur du pays sont acheminés au centre de traitement des données. Selon l'Autorité nationale des élections, ANE, la publication des résultats provisoires et partiels du second tour de la présidentielle, bureau de vote par bureau de vote, pourra se faire dans les prochaines 48 heures. René Sakanga Moruba, président de la commission logistique à l'ANE.
On vient à peine de commencer, nous ne savons pas quelle est la vitesse de traitement de ces différents procès-verbaux bureaux qui viennent des bureaux de vote et des centres de vote des 8 arrondissements de Bangui. Mais bon, je souhaite fortement que nous puissions prendre la vitesse de croisière pour que dans les 48-72 heures prochaines, nous puissions déjà passer carrément la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote, puisque c'est ce que prévoit la loi.
De l'avis des observateurs internationaux et de la société civile centrafricaine, malgré quelques dysfonctionnements constatés, ces élections ont été bien organisées, donc crédibles. Frimansi Pila, Bangui, VOA Afrique.
Au Burundi, un enfant tué et 32 autres personnes blessées ce matin par des explosions de grenades dans 5 endroits différents de la capitale Bujumbura. Les autorités burundaises soulignent qu'elles ne resteront pas les bras croisés face à cette recrudescence de la violence. Plus de détails avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Pour la première fois, une conférence de presse est tenue ce matin dans une station essence où venait d'être jetée une grenade ayant fait 8 blessés. Le ministre de la Sécurité publique y a donné le bilan de 32 personnes blessées sur des attaques menées dans 5 places différentes de la capitale, au nord et au centre de Bujumbura. Un enfant de 11 ans a également trouvé la mort au marché chez Sioni. Mais dans d'autres endroits de la capitale, plusieurs personnes ont été blessées, dont quelques-unes grièvement. Le bilan pourrait s'alourdir d'une minute à l'autre. Alain Guillaume Bouyoni affirme que cette criminalité utilise des méthodes terroristes. Il a indiqué que ces fauteurs de troubles ne vont plus narguer indéfiniment les forces de l'ordre. Des mesures particulières seront prises pour traquer tous ces criminels qui tuent des enfants et des femmes, sont le responsable numéro un de la sécurité publique. Depuis 10 jours, 8 personnes avaient été tuées, dont 4 enfants, suite à des attaques dans plusieurs localités de Bujumbura. 63 personnes avaient été blessées. Depuis les élections de Pierre Nkurunziza pour un troisième mandat contesté par une partie de l'opposition, plus de 400 personnes ont été tués. Plus de 250 000 Burundais ont trouvé refuge dans les pays de la sous-région. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Au Tchad, la police anti-émeute a violemment dispersé aujourd'hui à N'Djamena la manifestation de plusieurs centaines de jeunes qui protestaient contre le viol d'une jeune fille dont des images la montrant en larmes avaient été diffusées sur les réseaux sociaux. L'un des protestateurs serait décédé lors de la dispersion de la manifestation, a affirmé à l'AFP un manifestant sous couvert d'anonymat, mais le porte-parole de la police, le colonel Paul Manga, a assuré qu'il n'y avait pas eu de victimes et que deux des présumés violeurs avaient été arrêtés. Les grandes lignes de l'affaire, une jeune fille identifiée sous le nom de Zohora a été enlevée ce week-end et violée par 5 jeunes hommes issus de familles d'officiers supérieurs, selon les manifestants. Après avoir commis leur forfait, les violeurs ont mis en ligne une vidéo retirée depuis, montrant leurs victimes en larmes. D'où le rassemblement des camarades de lycée de la jeune fille et d'autres jeunes devant le domicile de la victime pour marcher sur le palais de justice pour réclamer réparation pour Zohora. Quand les protestateurs sont arrivés à proximité du palais de justice, la police aurait fait usage de gaz lacrymogène contre eux et il y aurait eu même des tirs à balles réels, ce qui aurait conduit à la mort d'un protestataire, a déclaré un manifestant à l'AFP. Mais le colonel Paul Manga, porte-parole de la police, dément catégoriquement qu'un manifestant ait perdu la vie. Conflit en Syrie maintenant, le premier ministre turc Ahmet Davutoglu accuse la Russie de se comporter comme une organisation terroriste en Syrie et il mentionne la possibilité d'une riposte turque extrêmement résolue. Idriss Aseloudia.
Monsieur Davutoglu a déclaré lors d'une conférence de presse aujourd'hui à Kiev que la Russie et l'organisation État islamique en Syrie sont coupables de nombreux crimes contre l'humanité en poursuivant leurs attaques barbares contre la population civile dans ce pays. Selon lui, l'intention de Moscou est de tuer le plus grand nombre de civils, de soutenir le régime syrien et de poursuivre la guerre. Pour rappel, l'aviation russe soutient depuis début février l'offensive du régime de Bachar al-Assad contre le bastion rebelle d'Alep, la deuxième ville de Syrie. Ces frappes ont entraîné la fuite en direction de la frontière turco-syrienne de dizaines de milliers de personnes que la Turquie a installées dans des camps du côté syrien de la frontière. À noter aussi qu'avant ces accusations de M. Davutoglu, le ministère russe des Affaires étrangères avait publié un communiqué se disant gravement préoccupé par les bombardements menés par l'artillerie turque sur les positions kurdes en Syrie pour la troisième journée consécutive.
Et pour terminer, en Libye, un gouvernement d'union nationale a été formé et sa composition a été soumise au Parlement internationalement reconnu de Tobrouk dans l'est du pays. Selon le Conseil présidentiel libyen, ce gouvernement compte 18 membres, dont 5 ministres d'État. Dans quelques instants, l'Amérique et vous avec Jean-Roger Bion. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. Et tu...